Excuse-moi. En train, savourer le juste avant, le juste après. En train, on rejoint, on se rejoint, on est rejoint. En train, le soleil surgit dans le maintenant éblouissant. Vous venez d'entendre des textes de Mélanie Leblanc que vous pouvez lire en ligne sur son Tumblr, donc en-train.tumblr.com. Bienvenue dans la langue brune, vous êtes dans l'émission Autour de la poésie puisque Mélanie est là. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu vas nous présenter Perrine Le Quérec.
Oui, tout à fait. Perrine Le Quérec, elle est recherchiste. C'est un métier qu'elle a créé. Elle en a créé aussi le nom, qui consiste tout simplement à faire des recherches. Recherchiste, elle l'est aussi en tant qu'auteur. Elle cherche la langue, surtout la langue de ceux que l'on n'entend pas. Elle s'aventure avec courage en terrain inconnu, en terrain dangereux aussi. Par exemple, dans Le Plancher, publié au doigt dans la prose en 2013, elle donne voix à la folie. Dans Le Prénom a été modifié, publié dans la même maison en 2014, c'est une toute autre voix, celle de jeune fille violée, que l'on entend. Elle est une grande auteure engagée. Par le combat quotidien qu'elle mène dans la matérialité même du langage, près de tout ce qui est fragile. Quotidien car elle écrit tous les jours sur son blog L'Entresort. C'est l'un des blogs les plus riches que je connaisse, je vous invite vraiment à aller le visiter. Ces derniers jours d'ailleurs se dessine une série avec la photographe Isabelle Vaillant qui est sa complice. Elles ont eu plein de projets ensemble et c'est vraiment beau aussi de voir les photos d'Isabelle Vaillant. Je vais vous lire celui qu'elle a publié le 15 janvier. Qui s'intitule « Des pages d'amour ». Avant, lorsque je savais écrire des pages d'amour, avant je savais écrire des pages d'amour, quand je savais écrire l'amour avant, je savais écrire des pages, lorsque des pages d'amour, l'amour avant je savais, avant lorsque je savais écrire l'amour, avant je savais écrire l'amour avant, lorsque je sais des pages de mots d'avant, l'amour d'avant je savais, on ouvre la porte de la poitrine, on enfonce le couteau dans le cœur, on pointe, plante, on ressort humide et puis rosé. Pas cuit, on referme, laisser encore, jusqu'à brûler, carboniser, plante, replante le couteau. Lorsque la lame sera sèche, le cœur noir, lorsque j'écrirai d'autres pages d'amour, lorsque je sais les écrire, lorsque depuis toujours les mots d'amour, les mots, je sais. Elle était l'invitée du Copo, en fait, pour une soirée poétique à Gaillon dans l'heure le 2 décembre. Et j'ai eu la chance de l'interviewer juste avant sa lecture. Vous allez donc écouter cette interview.
Bonjour Perrine Le Quérec.
Bonjour Mélanie.
Nous sommes dans un PMU à Gaillon.
Absolument.
Car ce soir, tu vas lire Le Plancher lors d'une soirée Copo, organisée par le Copo.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de ce livre que tu vas lire tout à l'heure ?
Oui, avec un grand plaisir. Donc, Le Plancher part d'un objet réel qui est un plancher de chêne gravé de 15 mètres carrés, gravé par un homme, Jean. Il s'appelle habituellement cet objet le plancher de Jeannot. C'est comme ça qu'il est présenté, comme une œuvre d'art brut maintenant. Donc Jean l'a gravé pendant les derniers mois de sa vie. Et il y a laissé sa peau, il l'a gravé sans plus nourrir et sous le plancher, du moins pas tout à fait en dessous géographiquement mais pas très loin, sa mère était enterrée. À partir du décès de sa mère, il s'est donc couché sur le plancher et il a entrepris ce grand réquisitoire, testament, beaucoup de noms ont été donnés pour interpréter cette œuvre. Donc, ce plancher est le résultat d'une histoire familiale intense, je ne vais pas raconter là. Donc mon livre est parti d'une vision de ma rencontre avec l'objet plancher dans une exposition, plutôt dans un contexte un peu étrange puisque c'était à la Bibliothèque nationale, là où tous les livres sont exposés et protégés, et l'œuvre de Jean était exposée dans cet endroit-là. Et à partir du moment où j'ai vu cet objet, il n'a plus quitté mon esprit. Et 5 ans après, j'ai décidé d'entreprendre l'écriture de ce livre.
Alors, tu parles d'écriture, justement. Moi, j'ai été frappée par la langue dans ce livre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as travaillé cette langue ?
Oui. Donc, je suis partie des mots même du plancher. Donc, Jean, à force de... Avec un marteau, une gouge, un poinçon, il a perforé le plancher et relié chaque trou pour former des lettres capitales qui écrivent un texte qui est très compréhensible et en même temps très emporté, un texte qui est d'une très très grande violence et d'une grande intensité. Donc c'est des mots que l'on voit aussi bien plastiquement, des mots qui sont dans la chair du bois, mais qui pénètrent aussi notre chair. Donc moi, j'avais envie, j'avais besoin pour rendre l'intensité de cette œuvre, mais aussi pour expliquer l'intensité de la vie de Jean et de cette particularité qu'il a, de ses particularités familiales et contextuelles qui l'ont poussé à entreprendre ce grand voyage sur le plancher. J'avais envie de trouver un langage qui puisse exprimer ce que j'avais ressenti en regardant le plancher et donc de mettre en forme mes mots, mettre en forme ma langue d'une façon brute, brutale, exactement comme moi je vois les lettres sur le plancher.
Tu parles de voir et on sent que dans ton travail, il y a souvent ce lien avec ce que tu vois. Tu travailles avec des artistes. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail de...
Oui, oui, le mot, je le vois. Le mot, c'est l'écriture, les lettres, je les vois. Je les vois comme des objets, je les vois physiquement. Je pense que l'écriture, c'est de l'architecture et que le mot, c'est un matériau qu'on monte. On monte des murs comme on monte des pages. Donc, travailler avec des artistes, c'est voir ce qu'ils font. Et ce que je projette dans les visions, par exemple, d'un dessin, d'une photographie, ce que ça projette, les lignes que ça dessine, ça va dessiner un nouveau langage. Enfin, un nouveau langage. On utilise les mêmes mots, on utilise le même alphabet, mais en se laissant contaminer par le travail des artistes, ça contamine le langage et ça lui donne une autre forme. Voilà, c'est pour ça que j'aime énormément travailler avec des plasticiens, des photographes, avec des gens qui expriment avec d'autres matériaux leurs idées, la façon dont ils sont possédés. Et de travailler avec eux, ça me permet d'utiliser leurs propres sentiments, leurs propres ressentis et de modeler mes mots avec leur vision.
Don't know why. heard that love is any good. Can never fall, it can never run dry. Said that love is any good.
Voilà, vous venez d'écouter Tindersticks, Another 19, extrait de l'album Curtains. Et juste avant, c'était l'interview de Perrine Guérec au PMU de Gaillon, enregistrée par Mélanie Leblanc. Voilà. Oui, ça y est.
En fait, la lecture du plancher après était vraiment très forte. On sentait vraiment une salle très attentive et les gens ne sont pas partis. Après, ils ont posé beaucoup de questions à l'auteur. Voilà, c'était un grand moment. C'est vraiment à vivre et à lire ce livre. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre publié aux éditions Les Doigts dans la prose. Pour faire suite à cette interview, en fait, on ne va pas lire des extraits du plancher. Vous le lirez, voilà. Mais on va lire un texte qu'elle a écrit près du travail de Samuel Buckman. C'est un artiste qui a fait une série de dessins qui s'appelle Les Dessins élémentaires. Et donc on va lire un texte à deux voix. Dans les silences et les lacunes,
tombe
l'écriture iconographique,
tombe
un mot par corps,
tombe
un trait par chute,
tombe
approche le geste,
tombe
à force de verticales griffées,
tombe,
de lettres tremblées,
tombe,
papier piétiné, corps plié,
tombe,
sous l'organisation des vertiges,
tombe,
dans un monde monté d'un cran,
tombe,
les antiques violences à tes trousses.
Relève-toi.
Il y a des feuilles pleines d'humeurs chuchotées,
de pièges et d'échelles,
d'ombres et de montagnes. Voilà, c'est donc un texte qu'elle a écrit en juin 2014. Perrine Le Carrec travaille la langue, en fait, quel que soit le genre, en écrivant des poèmes en prose, des récits en prose poétique ou même des pamphlets. Bec et ongle en est un, c'est un pamphlet. Il est paru en 2011 au carnet du dessert de Lune et aujourd'hui il a une résonance particulière, comme vous allez vous en rendre compte. Alors. Tous les jours, exécution sommaire, nettoyage ethnique, humiliation collective, cauchemar réveillé. Ceux du haut, ceux du bas. Au bord, ceux d'une autre couleur. Dans la norme, des monstruosités dont on se fait des colliers. Brandis sur des pics, les têtes réduites de nos vices. Les libertés ont perdu leurs voyelles, impossibles à prononcer. J'en perds mon français, j'en perds mes français, j'en perds mes dents, j'en perds la tête. J'ai perdu l'appétit, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma place, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mon portable, j'ai perdu la voix, j'ai perdu mon chemin, j'ai perdu le sens. Je perds du sang, je perds mon temps, je perds pied. Je tourne en rond, je vais m'en coller une dans la tête, je vais m'en coller une dans la bouche, je vais t'en coller une, t'en veux une ?
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird who looked down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
C'était donc Henry Lee, un duo de Nick Cave et de PJ Harvey. Voilà. Nous allons maintenant lire un extrait du dernier livre de Perrine Le Quérec, La Patagonie, paru au Carnet du Dessert de Lune. En fait, son éditeur, Jean-Louis Massot, a composé lui-même le livre en choisissant des textes parmi ceux qu'elle publie quotidiennement sur l'entresort. Certains sont des arts poétiques, comme Miracle, que je vais vous lire à l'instant. Je n'écris pas une histoire, mais une langue. Je n'écris pas une situation, mais une forme. Je n'écris pas des personnages, mais des langages. Je n'ai pas besoin de sentiments, d'anecdotes, d'amour. Je veux des puissances, des mots ajustés, des possessions, des folies, des guérisons. Je veux des volumes, pas des décors, pas des déguisements, pas des costumes. Je me fous de la narration, de la progression. Je marche dans la boue, je tombe à genoux, je frappe au cœur. Chaque mot est une découverte, une horreur, une solitude. Deux mots sont un miracle. Les recherches interrogent, soulèvent le sujet, l'écorchent. L'écriture est une anatomie. Elle sort chaque organe, le pèse, sous-pèse, le dissèque. Je passe des mois à remettre dans ce corps écartelé les organes étudiés. Je referme, suture au fil du crin, au fil rouge, au fil noir la peau de mon support. Ses poumons remplis d'eau et de pierre. Tant qu'il ne respire pas, je ne respire plus. Nous supprimons l'air entre les mots. Il n'y a rien de plaisant à me lire, rien de confortable, rien de réconfortant. La langue s'essuie au regard humide, luisante elle pénètre, s'insinue si bien aiguisée qu'elle scarifie, laisse trace, devient trace.
Sous la table. Ceux qui vivent sous la table. Ceux qui vivent dans le coin derrière l'ombre, sous le ciel, dans l'espace à côté, sur le biais, sous le poing, dans les jupes, sur l'étroit. Ceux qui vivent au fond d'eux, au bord d'eux, dans, dedans. Ceux qui vivent avec moi. Ceux qui vivent sous ma table, au fond de moi. Au bord de moi, à côté de moi, dans, dedans moi. Dans mon coin, dans mon ombre, sous mon ciel, mon espace, dans mes jupes, mon immense, mon étroit.
Innocence, que savez-vous de l'enfance, de ses brûlures indiennes, de ses quatre coins, de son enfer de craie, de ses yeux bandés, de ses labyrinthes sanglants?
Le dimanche. Ces dimanches, on sort, c'est fou. Au marché, artichauts, crustacés, fromages, et l'autre, qui traîne, qui bave, qui touche à tout, je ne vois que lui. Coude à coude, bonnes affaires et produits régionaux. Et l'autre périmé qui tombe sur son cul, refuse de se relever. Je ne sais que lui, haut-parleur felant, boniment vendeur. Et l'autre qui chante par tous les trous au fond d'un vide où le soleil pleut. Je ne suis que toi.
C'était le texte qu'elle avait choisi de lire à mes élèves, parce qu'elle est venue dans ma classe, en fait. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce texte-là qu'elle a fait écrire les élèves. Les élèves ont beaucoup écrit. C'était vraiment... Elle avait une très belle relation avec eux. Voilà. Le collier, maintenant. Elle n'a accroché au cou ni cœur, ni croix, ni fer à cheval. Rien pour la battre, la clouer, la contraindre. Elle n'a accroché à son cou qu'un lacet de vent, un cordon de lumière.
Commencement. Faut voir comme elle se concentre, la respiration. Le regard qui se dedans densifie, le corps qui se dedans durcit, la nuque fléchit, les muscles bandent et puis tout ramassé avant d'entrer sur la page.
Toujours. J'ai connu cette enfant lorsqu'elle était ma mère. Alors c'était elle qui me nourrissait, me donnait la main, me réconfortait. De toutes les phrases qu'elle ne dira plus, il en est une qui me suit comme une ombre. Je serai toujours là.
Pierre Fendre. Il silence à Pierre Fendre. Elle a beau ajuster sa cagoule d'os, serrer plus fort son manteau de peau, il passe partout, mord son cœur, noircit sa bouche, gèle son esprit.
Révélation. Les deux lames des ciseaux près de l'oreille, le crissement modeste et mordant, les mèches qui s'éparpillent à ses pieds. Elle attrape une autre mèche, encore une autre, retient son souffle, fixe des yeux interrogateurs sur son reflet, referme les lames. La mèche sectionnée s'agite entre ses doigts avant de tomber. C'est comme ça depuis des jours, cette interrogation devant le miroir, les cheveux qui disparaissent dans l'attente d'une nouvelle image. Cette obstination à couper, enlever, réduire, dans l'espoir de voir un autre visage émerger, le vrai. Cette écriture à coups de ciseaux et à chaque entaille, pour chaque absence, le rêve d'une nouvelle identité, d'une autre histoire.
Fracas. Ma petite est point brillant au bout du pré, au bout du drap. Je lui apprends les gestes qu'autrefois ma mère m'a appris. Défroisser et plier les draps, Je lui apprends ce que je sais, parce qu'un jour, je ne serai plus là, et qu'en face d'elle, sa propre fille étendra ses bras trop courts pour attraper un angle, puis l'autre, et que, dans le sourire de sa fille, entrevue au loin, au-dessus de l'immensité houleuse, ce sont les souvenirs de ce moment qu'elle défroissera, le ciel pommelé au-dessus de nos têtes, l'herbe crue qui recouvre nos pieds, et nos rires mélangés au fracas de coton blanc.
Tranchant. Plus elle maigrit, plus elle se trouve grosse. La peau tendue aux quatre coins du corps, les os en angle qui poussent et se bousculent sous la toile de derme. Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Si elle pouvait inciser ici et là, plonger la cuillère dans le fatras et creuser un peu, extraire nerfs et chair, garder juste ce qu'il faut de force pour écraser les oiseaux entre deux pierres, clouer les grenouilles sur les troncs, entendre le sang des autres s'écouler, secouer les boyaux de sa tête, se cacher dans un pli de la terre.
Un pas derrière. Il est devant moi. Il a dit qu'il serait toujours devant moi. C'est sa place. Moi, le petit, je vais derrière. Derrière son ombre, derrière son dos. Il est immense. Il est minuscule. Reste derrière. Nous sommes dans le couloir. Je retiens ma respiration. L'air noir entre dans mes poumons. Mon frère avance lentement. Je sens son corps durcir. J'entends sa peur. J'entends notre peur. Reste derrière. Sa voix s'étrangle. Il est toujours devant moi. Il a dit qu'il serait toujours devant moi. C'est lui le premier. Le premier pour les coups. Le premier pour les cris. Le premier pour la rage. Le premier pour la terreur. Le premier pour la mort. Alors, voilà. Les habitués sauront qu'à cette heure-là, vous allez entendre Janvier, donc un texte écrit par Mélanie Leblanc depuis cette rentrée-là, donc un mois, un texte. Donc je vous laisse écouter Janvier et je vous rappelle que c'est une musique de Thomas de Haumont.
Janvier. Il y a du silence, tout est ralenti, petit, enfoui. Les nids sont vides, les couleurs ont migré. Les odeurs même sont presque envolées. Comment parler quand tout se tait? Écoute. Au-dedans, ce qui se dit, les voix, les oubliées dans le fracas de l'été. Il y a du silence, et tout à coup, le bruit du rouge, le bruit du noir, un bruit de sourd. Comment parler ? Quand le monde crie. Écoute, au-dedans, au-dehors, tout autour, les bruits d'amour, les plus forts que la mort, les bruits d'humour. Écoute, la graine sous la terre, prête à se soulever, le poing dressé. Écoute, tous les silences en éveil.
Mélanie, dans ton texte, dans ton post sur Facebook pour annoncer l'émission de demain, tu parles de Janvier, de la réécriture de Janvier. Tu peux nous dire pourquoi ?
Eh bien, je m'y étais prise un peu en avance, pour une fois. Et donc... on avait d'abord enregistré un Janvier mardi, et puis il y a eu mercredi. Et donc, il y a du silence, ça ne me semblait plus du tout juste. Donc, j'ai gardé le début et j'ai modifié la suite. Voilà. Et je voulais dire qu'il y avait une participation de Ludwig Hernandez à la musique. Voilà,
voilà, merci Mélanie. L'émission de la langue brune touche à sa fin. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour mon émission toute seule. Et Mélanie, je te dis dans un mois pour février.
Oui.
Et puis, est-ce que tu sais déjà qui tu vas nous présenter?
Pas du tout.
Pas encore. Ok, très bien, ça va être la surprise.
À dans un mois.
À dans un mois, au revoir.